Ça va, Fred Vargas?
Oui, ça va, et vous-même, Bernard?
Très bien, et puis voilà, je vous ai retrouvé avec toujours le même bonheur qu'on sort la recluse chez Flammarion. Je vais filer une métaphore comme ça un peu facile. Quel a été le premier fil que vous avez tissé dans cette nouvelle toile?
C'est pas moi qui les tisse, hein, c'est la recluse, hein, c'est l'araignée, le premier fil. Comme d'habitude, c'est vraiment une difficulté. C'est toujours le soir avant de m'endormir, hein, je cherche des idées, il en passe. Je les jette ou même d'elles-mêmes, elles vont se tuer direct. Et puis parfois, dans tout ce passage de possibilités, d'idées, de recherches, d'éléments déclencheurs, comme on dit, il y a une idée qui passe dont je ne veux pas non plus, etc. Et au lieu d'aller se suicider comme les autres, et malgré l'ordre que je lui donne de dégager, elle s'accroche. Là, c'était cette petite araignée recluse, c'est son nom, qui est passée. Je lui dis, passe comme tous les autres, quoi. C'est comme sur une autoroute. Hein. Le combat peut durer 2-3 mois, hein, de lui dire, idée, s'il te plaît, dégage. Et l'idée dit, non, je m'assieds là, je reste. Je lui dis, oh non, pas ça. Il faut qu'elle s'en aille demain matin, elle sera partie. Le lendemain matin, elle n'était pas partie. Qu'est-ce que je fais, moi, d'une araignée dont je sais que la piqûre n'est pas... La morsure, pardon. Quelle erreur zoologique, que la morsure n'est pas mortelle.
Parce que d'emblée, ça n'était pas n'importe quelle araignée, c'était donc bien cette recluse. Alors là, on va tous, hein, je dois l'avouer, découvrir la recluse, s'il fallait nous faire les présentations, Fred Vargas.
C'est une petite araignée, très connue aux États-Unis, connue aussi en Amérique du Sud, où c'est une cousine, hein, qui s'appelle Réclusa, c'est la Réclusa, mais on a une cousine en France depuis toujours, et pas une importation, qui est une cousine, là, qui s'appelle Loxosceles rufescens. Et je connaissais même pas son nom latin quand l'idée est venue, et je ne l'avais pas lu, je n'avais pas vu d'araignée, je ne suis pas arachnophile, et il ne s'était rien passé spécial.
Ni arachnophobe.
Je suis habituée aux araignées dans la vieille ferme en Normandie, donc il n'y a pas de... Non, ça n'a pas plus de sens que... Alors après, il faudra aller fouiller dans l'inconscient. Je ne vous conseille pas d'aller mettre vos mains là-dedans, et à moi non plus. Mais donc, je me suis dit, c'est pas grave, quand même, une araignée recluse, demain, elle sera à la poubelle, d'elle-même. Pas du tout, elle n'y était pas, elle était restée dans ma tête. Où elle m'énervait sacrément, parce que je savais qu'une fois de plus, je ne pouvais pas construire un roman policier avec elle. Ça a été pareil pour le livre précédent, où Robespierre s'est imposé dans une histoire où il n'avait strictement mais rien à faire. Et la recluse non plus. Donc ça a été une longue bagarre. J'ai dit, il n'y a plus qu'à construire une histoire autour d'elle. Mais j'en ai bavé parce qu'elle n'est pas mortelle, parce qu'elle crache à peine de venin, parce que...
Elle est toxique, enfin, quand ça pique, enfin, non, quand ça mord, évidemment, ça n'est pas agréable.
C'est pas un dard, c'est des mâchoires. Quand elle est dans le sud-est, elle est petite, 1 centimètre, elle est brun clair. Quand ça mord, ça envoie non pas un venin neurotoxique comme la plupart des araignées, ça envoie un...
Nécrotique.
Vous l'avez lu, Bernard, le livre. C'est moins dangereux, mais c'est assez horrible, puisque c'est un venin qui dissout les chairs. Mais c'est un venin qui est fait pour l'araignée, pour dissoudre ses proies et les consommer. Mais c'est excessivement rare qu'on soit mordu par une araignée recluse, parce que les araignées, et toutes les araignées, ne vident pas le venin. C'est leur arme précieuse pour pouvoir aller faire leurs courses, attraper des proies et se nourrir. Les araignées ne larguent pas sur un homme qui ne sera jamais sa proie le contenu de leurs deux glandes à venin. Donc soit pour éloigner un homme qui a barré sa route parce qu'elle n'est pas du tout agressive, elle est cachée dans des petits trous doux.
Comme son nom l'indique, la recluse.
Elle est peureuse comme tout, cette araignée. Elle ne s'étale pas tranquillement comme celle qu'on connaît tous, la grande tégénaire des maisons, inoffensive d'ailleurs. Je le dis au passage, celle qu'on... La grande noire, hein, au corps bien, bien gros, bien gras, elle a une patte large, qui se met dans le coin des fenêtres, etc. Inoffensive complètement. Elle n'a pas... Mais la recluse, pour la voir, il faut vraiment le vouloir. Il faudra attendre toute une nuit en faisant presque à peine de lumière pour qu'elle ose sortir, chasser si elle sort, etc. etc. Donc il faut vraiment qu'il y ait une main humaine qui part ou un pied, voilà, se mette sur son trajet pour qu'elle se défende et morde. Et à ce moment-là, soit elle fait ce qu'on appelle une morsure blanche, c'est-à-dire qu'elle mord pour qu'on sente ce qui pique. Mais en fait, elle ne crache pas de venin pour l'économiser, parce qu'après, il lui faut 24 ou 48 heures pour le reconstituer en entier.
Comme un coup à blanc, quoi.
Voilà, soit elle tire à blanc, soit elle tire à moitié. Elle vide qu'une glande. Dans ce cas-là, bon, voilà, il y a une marque et on prend des antibiotiques et voilà.
Alors, moi, ça me fascine toujours quand on vous écoute parler de ça. C'est une connaissance, bon, on sait que vous avez été archéozoologue. C'est une connaissance que vous aviez déjà, ou est-ce que Fred Vargas travaille, se documente sur cette espèce d'araignée pour écrire son livre?
C'est-à-dire qu'à force de travailler en archéozoologie, forcément, on acquiert une masse de connaissances en zoologie. J'ai lu des centaines de bouquins. Forcément, on croise la route soit des insectes, soit des arachnides, puisque les araignées ne sont pas des insectes. Je ne sais pas pourquoi, je répète ça quasiment dans tous mes livres, comme si ça avait une importance. Bon, ce n'est pas grave. Elles ont 8 pattes et pas 6. Voilà comment vous pouvez différencier les uns des autres. Donc, j'ai quand même une connaissance et une sensibilité relativement large, mais pas non plus immense, concernant le monde animal. D'autant plus fouillé que je suis très préoccupée par l'environnement et l'écologie et que donc, de ce fait, on retrouve encore nos animaux, nos insectes, nos abeilles, etc.
Nos merles, enfin vos merles.
Nos merles qui disparaissent, les hirondelles 40% en moins, etc. etc. Donc, sachant reconnaître tout cela, donc je les regarde tout le temps.
Alors comment, à partir de cette araignée, cette recluse là, qui vous trotte dans la tête, comment on construit autour d'elle un roman policier et une intrigue? Après, évidemment, il faut développer, il faut agencer tout cela.
Alors, il y a des bouts que je construis avec mains et forts. Et puis, une fois, je me dis, bon, voilà, je suis à peu près cette route-là, il me faut l'assassin avant de commencer le livre.
Une fois... L'assassin, c'est la recluse.
L'assassin, c'est la recluse, voilà. Et on va lui mettre 4 paires de menottes, donc, puisqu'elle a 8 pattes à la fin. Bon, petite blague idiote. Et donc, je construis ce que je peux pour arriver jusqu'au bout du roman, ce qui n'est pas une sinécure, mais en plus où je trace comme une brute en un mois d'écriture. Ce que je paye lourdement après par 6 mois de correction, bien sûr, 17 jeux de correction. Et donc, en fait, au fur et à mesure du livre, arrivent des personnages, des situations dans le petit film. Attention, ce n'est pas des visions, hein, Bernard. Il y a des quantités de personnages. Je me suis retrouvée avec une quantité de personnages dans ce livre. J'étais obligée là, de travailler avec un petit carnet. Je me dis, lui, il a quel âge? Au fait, évidemment, je me gourais dans les âges. Heureusement, j'ai un fils très rigoureux. Non, là, forcément, et il a pas 73 ans, il en a déjà 79. Ah d'accord, je corrige.
Votre fils lit au fur et à mesure
Personne ne lit la première version, sauf moi-même, parce que sinon, je vais mourir de honte. La première version, c'est un gros travail de labour, avec 6 bœufs pour tirer la charrue. Hein, là, on pioche dans la... Tellement il y a à faire, la deuxième aussi, la troisième. À partir de la sixième, je passe à ma sœur, qui, elle, ne s'occupe, ma sœur jumelle, Jo, qui, elle, ne s'occupe que du son. Il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est le son. Et elle sait que ça m'intéresse violemment aussi, parce que la même histoire avec un son différent, ça ne serait plus la même histoire. Dans les corrections, je ne corrige plus l'histoire après. Je ne corrige que le son, 17 fois. Il reste à peu près plus de phrases du texte original. Mon fils lui donne plutôt vers la fin parce qu'il a une telle rigueur logique, soit en mathématiques, en géographie, en histoire.
Il chasse les petites incohérences qui restent.
Si je confonds 10 cm² et 10 cm de côté, il ne me rate pas, quoi. Et généralement, je le confonds, bien sûr.
Adamsberg a l'intuition très vite, hein, ça n'est pas déflorer l'intrigue que de le dire, que, évidemment, ce ne sont pas les araignées recluses qui tuent, mais que derrière, il y a sans doute un assassin, un utilisateur de ces araignées ou de leur venin.
En même temps, il se heurte à une impossibilité technique complète. Alors moi, j'étais très embêtée aussi, je vous assure.
Elle sera surmontée et les lecteurs découvriront pourquoi.
Mais si j'en dis plus, c'est toujours le problème d'un roman policier, c'est que c'est le seul objet en littérature, si je peux me permettre ce mot de littérature, c'est le seul livre, un roman policier, dont on ne peut rien dire. Ce qui ne me fascine, sans dévoiler au lecteur trop d'éléments et tout son plaisir et son but même et son objectif est gâché, foutu, et on n'a pas le droit de lui faire ça.
Ce dont on va parler, un peu comme ce qui se passait pour le roman précédent où il y avait d'un côté Robespierre, de l'autre côté l'Islande, et on se demandait mais où est le lien et comment elle va-t-elle l'établir. Ici, il y a, alors par une homonymie, la recluse, il y a d'un côté les araignées et de l'autre les recluses du Moyen-Âge qui sont ces femmes qui choisissaient d'être quasiment enterrée, vivante.
Oui, là aussi, je ne peux pas en dire trop.
Mais alors, parlez-nous de ces recluses.
Il y avait des femmes qui rentraient dans les reclusoirs, coincées entre les contreforts d'une église, sous les piles d'un pont, etc. Il y en avait dans toutes les villes médiévales. Elles étaient respectées et on pensait d'ailleurs... Elles n'avaient pas le statut de sainte, mais on pensait qu'elles... leur présence et leur sacrifice, le sacrifice de leur vie dans cette logette minuscule où elle ne dépendait par une toute petite fenêtre haute, une fenestrelle par où les gens, selon leur degré de charité, leur jetaient une gourde pour boire, des fèves, un peu de quoi se nourrir, etc. Pas de quoi, évidemment, se nettoyer, ni se coiffer, ni quoi que ce soit de ce type. Il y en a qui ont vécu quand même 50 ans dans ces logettes où parfois il n'y avait même pas la place de s'allonger. Donc évidemment, en tant que médiéviste, alors là, du coup... Ça a catapulté archéologue, médiéviste, zoologue. C'est peut-être pour ça que l'idée s'est accrochée alors que j'en voulais pas. La recluse animale a catapulté...
Parce qu'au départ, c'est elle. C'est la recluse animale, l'araignée, ouais. Comme vous l'expliquiez. Ouais. Et à un moment donné, vous faites le rapprochement.
Vite, oui, quand même. Vite, ça a catapulté. Mais c'est évident qu'en tant que médiéviste, je n'allais pas passer à côté de la recluse araignée, la recluse femme. Et forcément, ça aurait été étrange qu'on ne parle pas des femmes recluses. La société les enfermait au sens où volontaire, oui, mais parce que c'était généralement des femmes bâtardes, immariables, chassées ou le plus souvent violées, c'est-à-dire rejetées, y compris par les monastères, etc., qui auraient eu vocation à les accueillir. Et dans ce cas-là, elles n'avaient plus que soit la prostitution comme avenir, soit le reclusoir à cette époque. Et beaucoup donc choisissaient de sortir du monde parce que de toute façon, le monde, la société à cette époque les en avait sortis.
Je voudrais qu'on en vienne au rapport là, au sein du commissariat entre les différents personnages. Et je dirais que, dites donc, entre Adamsberg et Danglars, ça ne s'arrange pas ici.
Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Il y a un petit moment que ça se gâte, mais alors là, pardon.
Ça s'était gâté un peu dans le précédent. Bon. Mais là, je me suis demandé ce qui arrivait à Danglars. Voilà quelque chose de typiquement non prévu. Et je voulais l'arrêter, Danglars, mais il ne s'arrêtait pas.
Voilà, c'est mon interprétation. Je me dis que finalement, vous réglez peut-être par Adamsberg interposé, vous réglez des comptes avec Danglars, vous en avez peut-être ras-le-bol de Danglars, oui. Et finalement, vous le malmenez.
Peut-être. Quand je vous ai dit de ne pas aller fouiller assez dans l'inconscient, on n'y attrape rien de bon. Non, j'en sais rien. Je voulais l'arrêter, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, virgule Fred, point d'interrogation, est-ce que tu es en train d'essayer de faire exploser toute la brigade, que tu as déjà tenté le coup dans, ça, il y avait des moments difficiles dans le roman précédent, est-ce que tu es en train de vouloir que tout le monde se fâche, se range d'un camp, dans un camp, dans un autre, etc. C'est quoi, t'en veux plus, tu veux changer tous les personnages, c'est quoi, où t'as des problèmes avec Danglars ou avec Adamsberg parce qu'il t'énerve par certains côtés, parce qu'on comprend pas où il va, parce qu'il s'explique pas assez avec ses adjoints, ou Danglars parce qu'il bougonne dans son coin et que parfois il fatigue, il me fatigue. Je sais pas. Et finalement, j'ai trouvé pourquoi. Dans le livre.
Bon, là aussi, on ne peut pas trop en dire. Alors, on retrouve aussi, et ça, c'est ce qui fait le charme de vos romans, cette présence animale. Alors, on a eu des pigeons autrefois, et ici, on a les merles. Et je dois dire qu'on s'y attache à cette famille de merles. Enfin, c'est ce qui donne un charme absolument ineffable, entre autres, à ce dernier roman.
Il n'était pas prévu. Eh bien, un matin, moi, Damsberg s'est aperçu qu'il y avait un nid de merle dans le lierre et ensuite que la femelle couvait. Alors après, certains se sont mis à surveiller la couvaison et les naissances. Puis après, il a fallu s'occuper de ça parce que c'est dans une cour où il n'y avait rien à bouffer. Donc, il a fallu que je m'en occupe. Je me dis, qu'est-ce que j'ai besoin de m'occuper d'une famille de merles alors qu'on est en pleine catastrophe scénaristique, que je ne sais pas comment je vais m'en sortir et maintenant, il faut que je m'occupe des petits merlots. Ils étaient 5 quand même, c'est une grosse portée. Hein. Et dans la cour, avec les grilles d'arbres autour, c'est pas facile pour les parents d'en nourrir 5. Il n'y avait pas d'eau, il n'avait pas plu. Alors vas-y les écuelles, vas-y va chercher des framboises pleines de pesticides, bien entendu. Bon, qu'est-ce qu'on y peut ? Ça m'embêtait. Voilà, de la biscotte, du cake, des trucs. Bon, c'est comment aider un peu les oiseaux. Sauf...
J'allais dire, je suis sûr que vous l'avez fait ça, non ? Vous êtes occupé comme ça d'une couvée de merle.
Oui.
Il y a quand même aussi, vous dites quelque chose avec cette attention permanente au vivant, même par le plus petit, le plus humble de ses représentants. Fred Vargas, auteur écolo.
Je ne suis pas auteur écolo, je suis auteur et il se trouve que comme oui, j'ai une sensibilité environnementale, zoologique, une empathie surtout aussi, pas surtout, j'ai une sensibilité très puissante à l'environnement, c'est normal parce que si on continue comme ça, on est mort dans... pas beaucoup de temps et que faire pour nos enfants, petits-enfants, etc. C'est un instinct de préservation de la vie sous toutes ses formes. Mais je ne fais pas exprès que ça arrive dans les romans policiers. Ce n'est pas fait pour attendrir le public, ce n'est pas fait pour bêtifier, il y a des bébés, merles. Non, ce n'est pas ça.
Alors, la nourriture aussi, elle est toujours constante dans vos romans et souvent il y a un plat dominant.
Ou... Dans des auberges, des cafés, des auberges de campagne ou cafés de Paris ou bistrot, tout, oui.
Donc là, c'est la garbure.
Alors là, c'était... j'ai changé de rade, changé de resto parce qu'il faut bouger un petit peu de temps en temps. J'ai jamais été tentée par le système Simenon, attention, je critique pas, j'explique. De toujours à la brasserie Dauphine, toujours la bière ou toujours le verre de Calva, selon que c'est une enquête Calva, bière, etc. Ça dépend de ces enquêtes, c'est la seule chose qui change. Des fois, c'est toujours le même endroit, la même chaise et tout. Je peux plus, je sature là. Donc, je les ai fait changer d'endroit. J'ai pris un lieu pyrénéen, encore que je ne connais strictement rien. Aux Pyrénées. Hein. Là, ce n'est pas de l'autobiographie. Il n'y en a pas dans mes livres de l'autobiographie. Je ne connais pas ces personnages. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne connais rien aux Pyrénées. La garbure est un restaurant pyrénéen, puisque la garbure est un plat des Pyrénées. J'en ai goûté une fois, c'est bon, c'est OK.
Des pommes de terre, non, c'est ça.
Vous irez voir, vous goûterez. Bon. Pas critiquer non plus. Hein.
Sinon, bon, au cœur du livre, on retrouve aussi le poids du passé. Le poids de la mémoire, ça c'est aussi un thème que vous aimez creuser. Et il faut souvent aller chercher là-dedans l'explication des pires crimes.
J'ai bien du mal à... J'aimerais bien un jour faire une histoire qui soit débarrassée du passé. Mais quand on regarde les mobiles assez banals, hein, pour lesquels les gens tuent tout, après si on va dans l'enfance de la personne qui a tué, bon, bah, on trouve les traumatismes classiques. Qui ? Il n'y a pas de meurtrier sans traumatisme. Je ne parle pas des gangs de la mafia, etc. Hein. Je ne parle pas du crime technique organisé. Mais bon, bah, pas aimé dans son enfance, violé, ceci, cela, on retrouve tout le temps, c'est constant. Donc que faire, sinon aller dans le passé, et que faire aussi pour éviter les écueils de la répétition de toujours même type de traumatisme qui donne des personnalités malheureuses, souffrantes, et qui parfois peuvent donc aller régler cette souffrance en créant une violence qu'ils ont subie eux-mêmes. Voilà. Donc c'est très difficile d'échapper à la racine des êtres.
Ce que nous dit aussi ce livre, c'est que le plus cruel des animaux restera toujours l'homme.
Oui, on en a la démonstration quand même chaque jour, puisqu'on est en train de détruire la faune, la flore, le ciel, l'eau, la totalité de la planète, mais aussi... on arrive à s'auto-détruire tellement on est cruel. Alors là, c'est fort.
Et si Fred Vargas était un animal ?
Moi, mon animal fétiche, c'est la gerbille, le cérucate. les sentinelles du désert. Vous savez, les petites qui sont dressées, là, qui vivent en communauté avec les guetteurs, les ceci, les cela, et leur dédale de galeries de terriers, etc.
Vous êtes la sentinelle de quoi ? En alerte de quoi ?
En vigilance. En vigilance sur les dangers qui ne seraient pas vus. Sur l'environnement, par exemple, je suis en vigilance permanente, par exemple. En politique, je suis en vigilance. En injustice, je suis en vigilance. En protection des miens et des autres, je suis en vigilance. Mais il n'y a pas que la vigilance chez les gerbilles. Il y a la timidité. Je suis tellement timide, gerbille et tout, que je ne veux pas. Vous savez très bien que je me cache comme la recluse.
Merci pour cette chute, Fred Gerbille. Fred Vargas.
Merci, Bernard.